Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, la chronique présentée contiendra des informations sur les événements qui se sont déroulés durant la semaine du 23 au 28 janvier 2018. Cette semaine a en effet été très mouvementée et nous vous avons déniché les meilleures infos. Au programme du sport en passant par la victoire de Federer à l'Open d'Australie, de l'économie avec la visite du président américain à Davos ou même de la science avec l'expérience de clonage sur les singes en Chine. Vous trouverez sans doute votre bonheur parmi toutes les informations que nous vous avons réunies. Pour bien commencer, la chronique du mardi 23 janvier sera présentée par Milly et moi-même. Des inondations ayant lieu en Suisse, nous parlerons aussi d'un adolescent qui a ouvert le feu dans son école au Kentucky. Et pour clore cette journée, développerons autour du Mayon, un volcan situé aux Philippines.
Salut, t'as déjà entendu parler de ce lycéen qui a tiré dans son école au Kentucky ?
Non, j'en avais pas entendu parler. Que s'est-il passé ?
Eh bien, un élève a ouvert le feu sur ses camarades, tuant 2 adolescents et faisant 17 blessés.
Mais c'est horrible !
Oui, vraiment. Enfin, parlons d'autre chose. Tu savais que le volcan Mayon, qui est situé aux Philippines, est entré en éruption ?
Tout à fait, j'en ai bel et bien entendu parler. 55 000 personnes ont dû être évacuées sur l'Oé de Luon, au centre de l'archipel. Mais que s'est-il vraiment passé ?
En effet, dès lundi, un gigantesque nuage est apparu au-dessus de la montagne. Les autorités parlaient d'une éruption dangereuse imminente.
Wow, ça devait être très impressionnant. Il paraît même que les automobilistes ont dû allumer leurs phares et déclencher leurs essuie-glaces.
C'est exact. D'ailleurs, pour rester dans les catastrophes naturelles, tu y crois ? Il a tellement plu en Suisse que le niveau des eaux est dangereusement monté. Le Rhin et l'Aar ont même atteint des niveaux critiques.
Exactement. En plus, je déteste la pluie. D'autant plus que les secours sont mis à rude épreuve entre les caves inondées, les crues et les chutes de neige, sans parler des avalanches.
Effectivement, Jade, tu as raison. Et nous rappelons par ailleurs nos chers auditeurs de rester prudents en montagne où les dangers d'avalanches sont toujours à leur maximum. Maintenant, parlons des nouvelles du mercredi. Dis, aurais-tu entendu parler des mouvements hashtag MeToo et hashtag Time's Up ?
Oui, j'en vois partout parler sur les réseaux sociaux. Ce sont des mouvements qui consistent à ce que les femmes dénoncent les abus sexuels, non ?
En effet, ces mouvements auraient sûrement aidé à encourager les gens à croire les femmes, étant donné que mercredi, un ex-médecin pour l'équipe de gymnastique des États-Unis nommé Larry Nassar est finalement passé au tribunal après que plus de 150 femmes, dont certaines des mineures, se soient plaintes d'abus sexuels. La première plainte datait de 1997.
Mais comment est-ce possible que les autorités aient mis si longtemps à réagir ?
Beaucoup de femmes ont raconté des variations de la même histoire. Elles ont essayé d'en parler à leurs parents, coachs, officiels d'université et autres docteurs. Mais soit on les a ignorées, ou bien on ne les a pas crues. Si l'affaire est finalement arrivée au public, c'est grâce à un article publié par le journal The Indianapolis Star en août 2016.
Et quel a été le résultat du tribunal ?
Larry Nassar reçoit jusqu'à 175 années de prison, autrement dit la prison à vie. 156 femmes ont parlé de leur histoire d'abus lors du tribunal. La juge Rosemary Aquilina a déclaré « Je viens de signer ton arrêt de mort. Je trouve que tu ne le comprends pas, que tu es en danger et que tu restes en danger. » Nassar a plaidé coupable de charges fédéraux de pornographie infantile ainsi que 3 charges de conduite sexuelle criminelle.
Cette histoire montre bien qu'il faudrait prendre plus au sérieux les plaintes d'abus sexuels.
Sinon, dans notre nouvelle, Zermatt a été à nouveau relié au monde par voie terrestre. Les trains ont repris mercredi dès 17h. La ligne avait été impraticable à cause des avalanches et chutes de pierres. 5 hélicoptères avaient été déployés comme navettes aériennes. En 4 jours, Zermatt a transporté plus de 5000 personnes.
Et l'isolement de Zermatt, c'est un événement rare ?
Oui, la dernière fois que le village a été isolé de cette manière était en 1999. Mais maintenant, la situation se calme et les choses retournent à la normale. Dis, quand tu étais petite, est-ce que tu regardais les Teletubbies ?
Oui, j'adorais ça.
Eh bien, triste nouvelle. Simon Barn, l'acteur qui jouait Tinky Winky dans l'émission populaire pour enfants des années 90, est mort soudainement âgé de 52 ans.
Mais c'est triste. Il était jeune. Comment est-il décédé ?
On l'a retrouvé mercredi matin, effondré dans les rues de Liverpool, en Angleterre, à cause d'hypothermie. Ses enfants et amis ont posté sur les réseaux sociaux des hommages à l'acteur.
Eh bien, qu'il repose en paix.
Je vous propose maintenant d'écouter le morceau « Ironic » d'Alanis Morissette.
He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain.
Maintenant, passons à la journée du jeudi 25 janvier. Donald Trump a fait une entrée très remarquée au centre des congrès à Davos. Une dizaine de voitures les attendaient, lui ainsi que la délégation présidentielle.
Dès son arrivée au World Economic Forum, il a été accueilli comme une vedette. Il a signé des autographes et dédicacé des livres.
Il est important de rappeler que Trump est le premier président américain à s'être rendu au Forum économique mondial depuis Bill Clinton en 2000.
Donald Trump a lors de son discours vanté sa politique économique et son Amérique. Il a affirmé « C'est très excitant d'être ici. Nous sommes très contents. Les États-Unis vont très bien. »
Il a d'ailleurs rencontré Benjamin Netanyahou, le chef du gouvernement israélien, et a menacé de suspendre l'aide que les États-Unis apportent à la Palestine.
Oui, car une semaine plus tôt, Mike Pence, vice-président américain, s'est rendu à Jérusalem où les dirigeants palestiniens l'auraient snobé. Trump a déclaré « Ils nous ont attaqués, ils nous ont manqué de respect. » Nous leur avons donné des centaines de millions, cet argent ne leur sera plus versé à moins qu'ils s'assoient et négocient la paix.
C'est donc un ultimatum que Trump a imposé à la Palestine. Il assure d'ailleurs avoir un plan formidable pour la paix.
En Chine, des chercheurs ont mis au monde deux singes génétiquement identiques grâce à la même technique de clonage utilisée pour Dolly la brebis, premier mammifère à avoir jamais été cloné.
Les deux petits singes sont nommés Zhong Zhong et Wawa. Des primates avaient déjà été clonés auparavant par l'emploi d'une autre méthode plus simple appelée la division de l'embryon.
Mais il se trouve que celle employée pour cloner les deux nouveaux-nés a été expérimentée depuis une vingtaine d'années sur plus de 20 espèces animales, telles que des chiens, des chats, des vaches ou encore des porcs.
Pourtant, cette méthode s'était avérée beaucoup plus complexe avec les primates. La naissance de Zhong Zhong et Wawa fut le premier succès.
D'après les chercheurs chinois, cette réussite est prometteuse pour la recherche médicale car les primates sont les animaux les plus proches de l'homme.
Finalement, en Italie, le déraillement d'un train régional près de Milan, vers 7h du matin, a fait au moins 3 morts, 10 blessés graves et une centaine de blessés légers.
Tous les passagers ont pu être évacués et ceux qui vont bien ont été regroupés dans deux gymnases dans lesquels ils sont soutenus par des psychologues et autres personnes qui contrôlent leurs blessures.
Les causes exactes de cet accident ne sont pas encore connues, mais d'après les témoignages, le train se serait mis à trembler violemment, comme s'il était passé sur des rochers, et après un coup de frein brutal, le train aurait déraillé.
Dario Balotta, représentant de l'Observation nationale des transports italiens, a expliqué que la moitié avant du train est partie d'un côté tandis que la partie arrière est allée dans la mauvaise direction. Maintenant, le vendredi 26. Tout d'abord, les anti-vaccins. Ces personnes contre la vaccination de certaines maladies sont de plus en plus nombreuses aux États-Unis et seraient considérées comme une menace.
Une menace ? Pourquoi ça ?
Eh bien, c'est plutôt simple. À force de ne plus se faire vacciner contre certaines maladies, telles que la rougeole ou la coqueluche, celles-ci finissent par refaire surface.
Ah oui, maintenant que tu m'en parles, j'ai lu le témoignage d'un chiropracteur là-dessus. L'homme disait qu'il refusait de faire vacciner sa fille contre la rougeole et la coqueluche car il jugeait que ces maladies infectieuses n'étaient pas véritablement dangereuses et qu'elles pouvaient même être bénéfiques à la santé de son enfant.
C'est exact. Il a aussi ajouté qu'il était déçu que sa fille ne puisse pas avoir l'occasion d'attraper la varicelle ou une autre maladie infectieuse qui rendrait son organisme plus résistant.
Et son épouse, qui était kinésithérapeute, est du même avis.
Oui, ces personnes faisant partie de la classe moyenne supérieure et ayant effectué une formation universitaire choisissent pourtant de ne pas se faire vacciner, de pas faire vacciner leur enfant.
Mais pourquoi en fait ?
Ces parents ont en fait plus peur des conséquences des vaccins qui, d'après eux, sont cachés au public que de la maladie en elle-même. Ils sont aussi influencés par les lanceurs d'alerte médicaux, selon lesquels les données sur l'efficacité des vaccins ont été manipulées et que le nombre de cas d'enfants négativement affectés est dissimulé.
Je comprends. Les parents sont en fait très méfiants envers la communauté médicale.
C'est exactement ça.
Attends, moi j'ai trouvé un autre sujet. Je suis sûre que ça va te plaire.
Vraiment ?
As-tu déjà entendu parler d'un nouveau agrocarburant québécois qui permettrait de réduire la pollution liée aux avions ?
Ça me dit vaguement quelque chose, mais raconte.
Alors, un carburant vert a été inventé au Québec et il pourrait bien révolutionner le transport aérien. Peut-être en as-tu entendu parler, mais un premier vol commercial a d'ailleurs été effectué dimanche dernier. La distance parcourue par l'avion était de 13 000 km et il a probablement été le moins polluant de l'histoire sur une telle distance.
Sais-tu comment est fabriqué ce carburant ?
Oui, même si sa base est constituée majoritairement de pétrole, il est mélangé à 10% avec un biocarburant fabriqué grâce à des graines de moutarde carinata.
Des graines de moutarde ? C'est étrange. Y a-t-il vraiment un avantage à les utiliser ?
Oui, du moins d'un point de vue environnemental. Comme ces graines ne sont pas comestibles, elles n'entrent pas en compétition avec la production alimentaire. La fondatrice de la firme d'investissement dans les technologies vertes a aussi précisé qu'elle ne voulait pas utiliser les terres destinées à nourrir les gens pour produire de l'énergie.
C'est vrai que vu comme ça, ce biocarburant pourrait changer bien des choses. Surtout que le trafic aérien aura doublé d'ici à 2030.
Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, j'aimerais te poser une dernière petite question pour bien terminer.
Je t'écoute.
D'après toi, pourquoi Trump est-il venu à Davos ?
Je dirais qu'il est un peu venu pour rassurer le monde du business par rapport à toutes les idées qu'il a énoncées, entre autres durant sa campagne, qui sont très protectionnistes. Par ailleurs, son but était aussi de vendre sa réforme fiscale.
Oui, mais ne nous voilons pas la face. Monsieur Trump a très longtemps appartenu à ce milieu de businessman. Dans cet environnement, il se sent comme un poisson dans l'eau. Et pour lui, sa visite s'appartenait plus à un égo trip. Mais bon, n'en disons pas plus là-dessus et laissons les gens se faire leur propre opinion quant à cette visite du président américain à Davos.
En attendant la prochaine chronique qui sera présentée par Laetitia et Laura, nous vous laissons écouter Fall In de Alicia Keys. I keep on falling in.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.
Alors, ce samedi 27 janvier ?
Eh bien, rien de très réjouissant.
Ah oui ? Que s'est-il passé ?
Eh bien, ce samedi a commencé avec un attentat à Kaboul, qui est la capitale de l'Afghanistan, et qui a fait plus de 100 morts et plus de 200 blessés.
Quelle horreur ! Qui a fait ça ?
Des talibans qui sont des fanatiques musulmans qui aimeraient restaurer en Afghanistan un régime complètement totalitaire et sans liberté.
Des terroristes, en fait. Mais comment ont-ils fait ?
Alors, ils ont fait semblant de conduire un blessé dans une ambulance et ils l'ont fait exploser dans un des quartiers les plus animés de la capitale afghane.
C'est vraiment affreux. Ont-ils retrouvé les coupables ?
Bah, ils sont morts dans l'explosion.
Oui, logique.
Kaboul est donc en alerte rouge car c'est déjà la troisième attaque terroriste de la semaine après l'attaque de l'hôtel intercontinental le dimanche 20 janvier et celle de l'ONG Save the Children à Jalalabad ce mercredi. Et vers chez nous, que s'est-il passé ?
Eh bien, rien de très joyeux non plus. En effet, en France, à cause des importantes pluies de ces dernières semaines, de nombreux fleuves ou rivières ont débordé. Par exemple, à Paris, la Seine est sortie de son lit, obligeant de fermer certains quais et une ligne de RER. Dans certaines régions, les habitants ont dû quitter leurs habitations.
Et ça dure encore maintenant ?
Oui, et la terre est tellement imbibée d'eau que ça va prendre encore quelques jours pour que tout ça redevienne normal. Par exemple, le RER ne sera pas réouvert avant le 5 février.
Dans tout ça, tu n'as pas une bonne nouvelle ?
Si, j'en ai une. Dans une grotte schwitzoise, 8 personnes qui étaient coincées depuis dimanche 21 janvier sont enfin sorties.
Ah oui, j'en ai entendu parler. Au premier abord, on pourrait croire qu'ils devaient mourir de faim ou d'ennui, mais non. Suite à un incident semblable il y a une soixantaine d'années, la grotte comptait une dizaine de bivouacs bien équipés.
En effet, il y avait une cuisine, des chaises, une table, un set de fondue, du fromage, quelques bouteilles de vin, des lits et des toilettes.
Les spéléologues amateurs âgés de 25 à 55 ans ont eu juste à attendre, mais les activités ne manquaient pas. Certains se promenaient, d'autres jouaient aux cartes ou encore sculptaient des statues anglaises. Sympa, non ?
Oui, mais il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Vu qu'ils avaient un guide et que c'était bien organisé, comment ont-ils fait pour rester coincés ?
En fait, ils ont été bloqués par un siphon.
Un siphon ? Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont des salles ou des galeries remplies d'eau de façon périodique ou éternelle.
En gros, c'est une sorte de galerie inondée ?
Oui, si tu veux. En fait, l'eau de la galerie a soudainement monté, empêchant le passage des randonneurs.
Ah, d'accord.
Maintenant, le dimanche 28 janvier. Si je te dis Ingvar, Kamprad, Eltharid, Agunarid, tu penses à quoi ?
Bah, pas grand-chose.
Eh bien, ce sont les initiales de la plus grande entreprise d'ameublement au monde, IKEA.
Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai une triste nouvelle à t'annoncer. Le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, est mort ce samedi 27 janvier.
Oh non.
Son décès n'a été révélé au grand jour que le dimanche 28.
Oh non, c'est super triste.
Oui, surtout qu'Ingvar Kamprad était un homme très humble. En effet, il était l'un des hommes les plus riches au monde. Pourtant, il continuait quand même à voyager en classe économique. Il faisait ses courses au marché et s'habillait modestement.
Kamprad était fils de paysan et il a fondé son entreprise à 17 ans. Elle compte aujourd'hui environ 190 000 employés et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros.
Le fondateur d'un des piliers de l'économie suédoise est décédé de vieillesse à 91 ans. Toutes nos condoléances à sa famille.
As-tu des nouvelles plus réjouissantes ?
Oui, Roger Federer a remporté l'Open d'Australie, ce qui lui fait son 20e titre au Grand Chelem.
En effet, il a gagné contre le Croate Marin Cilic. Il a remporté le premier set, le troisième et le cinquième.
Il a posé fièrement avec son trophée et a également répondu à de nombreuses interviews que vous pouvez retrouver sur Internet.
Il a avoué avoir été très ému et avoir encore de la peine à réaliser son exploit.
Je propose de maintenant parler de la manifestation à Lausanne en soutien à la presse. Plus de 200 personnes se sont réunies contre l'initiative No Bilag.
Comme tu le dis, il porte soutien à une presse diversifiée, à l'agence Telegraphite suisse. Il pense en effet que le No Bilag serait néfaste pour notre démocratie puisque cela empêcherait la presse de s'exprimer librement. Maintenant, nous écoutons Zombie de The Cranberries.
We'll be right back.
Bien, j'espère que cette chronique vous aura plu. Malheureusement, elle touche à sa fin. Pour construire cette rubrique, nous avons usé des ressources suivantes. Les sites de la Tribune de Genève, Huffington Post, la RTS, le 24 heures, le Matin, le Journal Radio-Canada, ainsi que la CNN et la BBC. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et que vous avez appris de nombreuses choses. La semaine prochaine, vous retrouverez nos camarades pour une nouvelle chronique qui, j'espère, vous plaira tout autant. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée et nous vous retrouvons la semaine prochaine.
Radio Genevieve, c'est de l'information, de la musique, des découvertes et de l'humour. Et c'est tous les mardis à 20h, mercredi 14h et samedi à 8h sur radiobus.fm.